Au Moulin Rouge et dans tout Paris, il est 7h30. 6h30 en temps universel, le journal sur RFI avec Baptiste Coupin. Bonjour Baptiste.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous. À la une de cette édition, la disparition du vol d'Airasia, l'appareil s'est probablement abîmé en mer, affirment les autorités indonésiennes. Les recherches se poursuivent. La moitié des passagers encore coincés dans un ferry qui a pris feu hier au large de la Grèce. L'évacuation se fait au compte-gouttes. Et puis, va-t-on vers des élections anticipées en Grèce? Ce pourrait être le cas si les députés ne parviennent pas à élire un nouveau président aujourd'hui. L'avion de la compagnie Airasia s'est probablement abîmé en mer. C'est ce qu'ont annoncé il y a quelques heures les autorités indonésiennes au lendemain de la disparition d'un Airbus A320-200 qui effectuait la liaison entre l'Indonésie et Singapour. 162 personnes étaient à bord, dont une majorité d'Indonésiens. Avant de disparaître des radars, l'avion avait demandé à modifier son plan de vol en raison des mauvaises conditions météo. Simon Rosé.
Le patron d'Airasia et les autorités malaisiennes insistent. Ils ne souhaitent pas spéculer sur les circonstances de cette disparition. On possède cependant quelques indices pour essayer de déterminer ce qu'il s'est passé. Une des dernières communications de l'équipage en direction de la tour de contrôle a été pour demander l'autorisation de changer de plan de vol. Le temps était alors très mauvais et le pilote souhaitait prendre de l'altitude pour éviter les masses nuageuses. L'avion devait alors s'élever de 32 000 à 38 000 pieds, un peu plus de 11,5 km d'altitude. Il s'agit d'une pratique courante dans de telles circonstances, mais la manœuvre reste délicate. L'avion arrive alors presque à son plafond, son altitude maximale, et s'il n'a pas assez de vitesse, il risque de décrocher. Si c'est bien ce qui est arrivé, l'avion aurait donc chuté avant de s'abîmer au large de l'île de Belitung. C'est dans cette zone que se concentrent les recherches. Nous sommes ici en plein océan Indien, avec une eau proche des 30 degrés, une température qui permet de garder espoir quant à la survie des passagers.
Et sachez que la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont proposé leur concours en cas d'exploration sous-marine.
L'inquiétude toujours dans les eaux de l'Adriatique. Une gigantesque opération de sauvetage se poursuit pour évacuer les occupants du ferry Norman Atlantique au large de l'Albanie.
Oui, le bateau est en perdition depuis hier et le déclenchement d'un incendie sur le pont inférieur. Près de 500 personnes étaient à bord, des passagers qui sont évacués par hélitreuillage dans un contexte chaotique. Écoutez ce témoignage d'un passager français recueilli hier par nos confrères d'Europe 1. Il décrit la situation.
Nous avons peur, très peur. Nous sommes encore sur le bateau. Nous sommes frigorifiés. Nous sommes très très fatigués. Nous avons réussi à nous procurer une couverture pour se réchauffer. Le bateau a l'air de tenir. Tout à l'heure, il branchait dangereusement sur le côté. Nous étions dans le dortoir du bateau. On a entendu des grands coups avant que ça m'a réveillé. Ensuite, on a commencé à avoir de la fumée partout. Tout le monde se suivait à la queue leu-leu et on s'est tous retrouvés sur les ponts extérieurs.
Voilà pour ce témoignage recueilli hier. L'opération de sauvetage se poursuit donc. Selon le dernier bilan communiqué dans la nuit par les gardes-côtes grecs, le sinistre a fait un mort, un passager grec. La moitié des passagers restent à évacuer. Une noria de navires est sur zone pour prêter assistance. Cette violente attaque de Boko Haram hier à Achigachia, dans l'extrême nord du Cameroun, la secte islamiste y est parvenue à investir un camp militaire pendant plusieurs heures avant la riposte de l'aviation camerounaise. Des témoins ont fait part d'intenses combats contre l'armée camerounaise.
Un nouveau front dans l'offensive contre le groupe État islamique en Irak.
Oui, les forces irakiennes ont pu pénétrer hier dans la ville de Doulouya, contrôlée en grande partie par les djihadistes, et ce grâce à l'appui de l'aviation irakienne. Doulouya est stratégique car situé à moins de 100 km de Bagdad. Le groupe État islamique qui recule, c'est aussi vrai à Kobané en Syrie. Mais des djihadistes qui continuent de semer la terreur dans les régions où ils ont le contrôle. À retenir ce chiffre communiqué par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 2000. C'est selon l'ONG le nombre de personnes qui ont été exécutées par le groupe État islamique en Syrie depuis le mois de juin et l'annonce de l'établissement d'un califat entre l'Irak et la Syrie. Par ailleurs, on a appris hier la mort d'un général iranien des gardiens de la révolution en Irak. Il formait des militaires irakiens et des miliciens chiites à la lutte contre les djihadistes dans la ville de Samara. Il a été abattu par des individus dissimulés. Nous appelons Siavosh Ghazi à Téhéran.
C'est le plus haut gradé iranien tué en Irak ces derniers mois. Les gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime islamique, ont annoncé officiellement la mort du général Hamid Taravi lors d'une mission pour conseiller l'armée et les volontaires irakiens pour lutter contre les terroristes Daesh dans la ville de Samara, située à 110 km au nord de Bagdad. Ces derniers mois, la presse iranienne a annoncé la mort de plusieurs militaires iraniens partis officiellement en Irak en tant que volontaires pour combattre les djihadistes de l'État islamique, mais c'est la première fois qu'on parle de la mort d'un militaire en mission. Les médias iraniens ont également publié ces derniers mois des photos du général Qassem Soleimani, chef de la force Quds, une unité d'élite et gardien de la révolution, aux côtés de combattants kurdes irakiens, mais également de militaires de l'armée irakienne et des groupes de miliciens. Selon les médias iraniens, le général Soleimani a dirigé certaines opérations qui ont permis la reconquête de régions et villes irakiennes des mains des djihadistes. Dès le début de l'offensive des djihadistes en Irak en juin dernier, l'Iran a apporté son soutien au gouvernement de Bagdad, mais aussi aux combattants kurdes. Téhéran a annoncé avoir fourni des armes et des conseillers militaires pour lutter contre les djihadistes, mais a toujours refusé de faire partie de la coalition internationale mise en place par les États-Unis. Siavosh Kazi, Téhéran RFI.
Au Proche-Orient, le procès pour corruption de Mohamed Dahlan, une nouvelle fois repoussé.
Oui, c'est le troisième report dans cette affaire. Mohamed Dahlan, ancien ministre et ex-chef de la sécurité de Gaza, il est en exil volontaire depuis 2011 et son exclusion du Fatah, accusé par le pouvoir actuel d'avoir détourné à son profit plusieurs millions d'euros. Une accusation que conteste l'intéressé. La défense parle d'un procès politique.
Il y a trois ans, l'aviation turque bombardait en pleine nuit et sans raison un groupe de contrebandiers kurdes dans la montagne marquant la frontière avec l'Irak. Bilan, 34 morts.
Oui, un drame qui s'est noué dans le village kurde de Roboski sur la frontière avec le Kurdistan irakien. Les corps de 34 civils, en majorité des enfants, avaient été trouvés calcinés et transportés à Dodan par des villageois. Les habitants de Roboski dénoncent un massacre collectif et trois ans après les faits, continuent de réclamer justice. À Istanbul, c'est une correspondance de Jérôme Bastion.
Sur les lieux du drame à Roboski même, le président du parti pro-kurde, Selahattin Demirtas, a rappelé au président Erdogan sa promesse de tirer au clair ce massacre inexpliqué. Et pourtant, la justice s'est déclarée incompétente et jusque-là, l'armée garde le silence. Mais moralement, le dossier ne sera pas refermé tant qu'il restera un kurde pour demander des comptes, a-t-il rappelé. À Istanbul, plusieurs rassemblements commémoratifs ont également eu lieu, derrière 34 symboliques cercueils noirs. Zeyra Nurek est la sœur de Salih, 16 ans, tuée le 28 décembre 2011, dont elle brandit la photo.
Roboski, c'est un tout petit village et 34 disparitions d'un seul coup, cela a été un énorme traumatisme, un grand malheur pour nous. Et puis ce sont eux qui faisaient vivre le village. Depuis des générations, les hommes transportent des marchandises à travers ces montagnes. Ce n'est pas de notre faute s'ils ont tracé cette frontière artificielle qui a divisé nos familles et qui a mis en danger notre gagne-pain.
Les familles des victimes ont jusque-là refusé l'indemnisation offerte par le gouvernement car elles réclament la condamnation des responsables, toujours pas identifiés. Mais c'est probablement, comme souvent en pareil cas, la Cour européenne des droits de l'homme qui finira par leur donner raison. Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
La Grèce, face à un choix crucial pour l'avenir du pays, le Parlement va tenter une dernière fois ce lundi d'élire un président de la République.
Oui, après deux échecs consécutifs, la candidature de Stavros Dimas va être une nouvelle fois mise au vote, mais avec peu de chances de réussite, d'autant que le candidat du gouvernement a déjà fait savoir qu'il n'accepterait pas d'être élu avec les voix d'aube dorée. On s'achemine donc tout droit vers des élections législatives anticipées qui pourraient déboucher sur une victoire de Syriza, le parti de la gauche radicale. Béatrice Leveillé.
Le candidat de la coalition droite-gauche à la présidence de la République fait son dernier tour de piste. S'il ne rassemble pas les 180 voix nécessaires au Parlement, des élections législatives seront convoquées. Et dans ce cas, c'est la formation de gauche radicale Syriza qui est donnée en tête par les instituts de sondage. Or, son chef, Alexis Tsipras, s'oppose aux mesures d'austérité, notamment aux nouvelles coupes budgétaires que le pouvoir en place à Athènes et les bailleurs de fonds de la Grèce préconisent pour 2015. Reste l'inconnu, aube dorée, si les 16 voix des élus du parti d'extrême droite venait s'ajouter aux 168 recueillis par Dimas au deuxième tour, il atteindrait la majorité de 180 voix requises au dernier tour. Mais pour le parti au pouvoir comme pour le chef d'aube dorée, il n'en est pas question. Il est en prison depuis un an avec la moitié des élus de son parti à la suite de l'assassinat par un militant d'aube dorée d'un musicien engagé. Le plus étrange, c'est que dans l'attente de leur procès, les élus d'aube dorée vont pouvoir voter depuis leur cellule.
Dans l'actualité aussi, il y a cette initiative de Séoul. La Corée du Sud doit proposer ce lundi à la Corée du Nord des discussions de haut niveau sur la question douloureuse de la réunion des familles séparées par la guerre de Corée. En 1950, le dernier tour de table officiel entre les deux Corées remonte au mois de février. C'est la fin de ce journal.